Alors bienvenue pour cette formation cycle 2, l'Esprit Saint, qui est-il et son action, qui sera donc en deux parties. Première partie, qui est l'Esprit Saint à regard théologique, en nous appuyant sur le catéchisme de l'Église catholique, et une deuxième partie, plus spirituelle, qui se fera cet après-midi. Dans le credo de Nicée-Constantinople, nous disons « Je crois en l'Esprit Saint, il est Seigneur et il donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Nous affirmons que l'Esprit Saint est Dieu, qu'il reçoit même adoration et même gloire, même dignité que le Père et le Fils, qu'il procède du Père et du Fils, et qu'il a agi dans toute l'Écriture, puisqu'il a parlé par les prophètes. C'est aussi celui qui fait émerger la vie, qui donne la vie. C'est lui aussi qui vivifie. Il est Seigneur et il donne la vie. Pourtant, l'Esprit Saint est mal connu. L'Esprit Saint est mal connu et il est bon de commencer en nous disant qui est vraiment l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est sans doute la personne la plus cachée de la Trinité. En effet, c'est elle qui nous fait connaître Dieu de manière particulière et pourtant c'est la personne qui l'a plus cachée. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit « Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Voilà, « Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit Saint. » L'Église nous dit « Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père, mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et il nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ, ne parle pas de lui-même. » C'est sans doute pour cela que l'Esprit Saint est la personne la plus cachée, peut-être le grand inconnu, parce que l'Esprit Saint ne nous tourne pas vers lui, mais il nous aide à crier, à prier avec tout notre cœur, à crier « Abba Père », à nous tourner vers le Père, et de la même manière, l'Esprit Saint nous aide à accueillir la parole de Dieu, nous aide à entendre la parole de Dieu, à nous faire connaître ce qui concerne Dieu. Donc il n'est jamais tourné sur lui-même, mais nous pouvons penser, nous pouvons croire véritablement dans la foi que quand notre foi, notre connaissance personnelle du Père grandit, notre connaissance personnelle du Fils grandit, il y a l'action de l'Esprit Saint. Voilà, il y a l'action de l'Esprit Saint. L'Église insiste sur cette dimension cachée en continuant en disant « un tel effacement proprement divin ». Un tel effacement proprement divin explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Voilà, il y a une forme d'effacement de l'Esprit Saint, une forme d'humilité qui lui est, voilà, qui fait qu'il est très discret. Pourtant, l'Esprit Saint agit dans beaucoup de choses. Où découvrir l'Esprit Saint? Dans l'Église, nous avons la présence du Saint-Esprit. L'Église est le temple de l'Esprit Saint. Elle est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint, par excellence. Et je voudrais d'abord commencer par le mystère de la parole de Dieu, pour montrer qu'à travers la parole de Dieu, l'Esprit Saint agit. Et il est là. Nous disons dans le credo, il a parlé par les prophètes. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré les Écritures. Chaque auteur est un auteur sacré parce qu'il est inspiré. Et il n'est pas inspiré, j'allais dire comme ça, ça tombe du ciel, c'est l'Esprit Saint dans le cœur de l'auteur sacré qui le travaille pour que ce qu'il va écrire soit à la fois parole humaine et parole divine. Et en cela, c'est inspiré. Cette parole humaine qui aura un impact sur des générations et des générations et qui fera sentir qu'il y a un contact avec Dieu dans cette parole, c'est pour ça qu'elle est parole divine, qu'elle est inspirée. Et le Saint-Esprit fait son œuvre d'inspiration dans les Saintes Écritures. De la même manière, toute la connaissance, la méditation que nous avons acquis des Saintes Écritures, tous ces premiers chrétiens qui ont vécu sans avoir encore l'Écriture consignée, qui se parlaient, qui se communiquaient entre eux l'expérience du ressuscité, qui étaient guidés les uns par les autres, sous l'autorité des apôtres. Et tous ces grands pères de, ces pères de l'Église qui ont médité le mystère de Dieu, qui ont compris avec l'intelligence et le cœur, en synthétisant dans des formules dogmatiques, tous les credos qui se sont mis en place, toute la spiritualité des saints qui s'est développée, tous les docteurs de l'Église qui ont médité pour nous donner un enseignement de tout temps. Voilà, toute l'Église qui a approfondi et qui petit à petit a posé des balises lumineuses qui sont les dogmes et son enseignement ordinaire. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, tout cela nous l'appelons la tradition et tout cela est guidé aussi par le Saint-Esprit. Jésus dira un jour que l'Esprit Saint nous fera comprendre tout ce qu'il a dit. Et bien en fait, dans l'Écriture, tout est dit et la tradition nous permet de comprendre dans l'Esprit Saint ce qui est dit dans l'Écriture. Elle est d'abord orale, et cette tradition, c'est même elle qui, quelque part, d'une certaine manière, précédait l'Écriture, puisque l'Écriture a été écrite suite à une tradition orale. Et c'est cette même tradition qui va continuer une fois que l'Écriture est écrite entièrement, jusqu'à la mort du dernier apôtre, nous avons la fin de l'inspiration à proprement dit. Mais l'Esprit Saint va continuer à guider l'Église dans un approfondissement. On parle d'un désenveloppement du dogme, c'est-à-dire comme si un cadeau qu'on ouvrait, qu'on désenveloppait et qu'on découvre petit à petit ce qu'il est, pour mieux le comprendre. Et là, l'action de l'Esprit Saint agit dans la tradition. On appelle ça l'assistance du Saint-Esprit. Non plus l'inspiration, il n'y a plus de nouvelles choses à dire, mais il y a tout à désenvelopper et c'est l'assistance. Voilà. Et c'est tellement fort que le Concile Vatican II, je l'ai déjà dit, dans la Constitution sur la parole de Dieu, Dei Verbum, définira le mystère de la parole de Dieu comme la Sainte Écriture et la tradition. Et non pas simplement la Sainte Écriture, mais la Sainte Écriture et la tradition. En parlant de la parole de Dieu comme ces deux sources qui sortent du cœur de Dieu. Donc nous voyons que ces deux sources ont pour origine le Saint-Esprit qui les inspire et qui les assiste. Voilà. Donc le Saint-Esprit, il agit dans la parole de Dieu qui est à la fois l'Écriture et la tradition. Voilà. Et donc il ne faut pas opposer l'un et l'autre parce que j'allais dire, le Saint-Esprit, le même auteur, il guide les deux. Et nous avons la parole de Dieu dans sa plénitude, dans cette unité. De la même manière, si nous voulons véritablement une bonne compréhension de toute la tradition qui est vivante, une tradition n'est jamais figée. On ne casse pas la grande tradition, on peut remettre en cause des petites traditions avec des petits t, mais la grande tradition, elle est guidée par le Saint-Esprit, donc elle est sainte, et elle fait des saints, elle guide vers la lumière, de la même manière que l'Écriture, elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle dit la lumière. On ne peut pas non plus la couper, mais il nous faut la comprendre dans une intelligence toujours plus profonde, avec guidée par le Saint-Esprit et guidée par l'autorité des apôtres, et de manière particulière par le pape, qui est lui-même guidé par un charisme particulier d'infaillibilité qui est donné par Dieu. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et Pierre édifie tes frères dans la foi, voilà. Ce charisme d'infaillibilité qui, en fait, non pas que le pape est infaillible par lui-même, mais il est infaillible par l'infaillibilité de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne manque jamais à assister son pape, le successeur de Pierre, et en cela on voit que l'Esprit Saint agit dans le magistère. L'Esprit Saint agit dans le magistère. Et si on fait un peu d'histoire de l'Église, on voit que la papauté a pu très bien vivre à titre personnel le pape un contre-témoignage. Il n'y a pas eu toujours des saints papes. Mais le pape s'est jamais trompé en matière de compréhension du mystère de la foi et de compréhension de ce qu'il fallait dire en termes moraux. Jamais le pape, en foi et en mœurs, ne s'est trompé dans son enseignement. Parce qu'il est assisté de manière, par un charisme unique, par l'Esprit Saint. De la même manière, les évêques unis au pape, le collège des évêques unis au pape, sont infaillibles, et nous avons cela, pas eux-mêmes, unis au pape, nous avons cela dans les conciles. Donc on voit l'assistance du Saint-Esprit à guider vers la vérité tout entière. Donc c'est un beau lieu c'est un lieu où nous pouvons rendre grâce, et nous pouvons nous dire, si je veux être docile au Saint-Esprit, est-ce que je suis docile au Saint-Esprit dans les Écritures, en me priant, en demandant que le Seigneur me révèle des mots de l'Écriture qui touchent mon cœur pour être docile à ça? Pareil, est-ce que j'accueille la tradition de l'Église et l'enseignement du magistère? Voilà, c'est une manière objective de dire « je suis docile au Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est présent aussi dans... Donc là, il est présent dans la vie de l'Église enseignante, conduisante. Il est présent dans la vie de l'Église célébrante, dans la liturgie sacramentelle. Les paroles de Dieu qui sont exprimées dans la liturgie sacramentelle, les symboles qui sont posés ont été guidés de siècle en siècle par le Saint-Esprit. La manière dont nous recevons les sacrements ont été guidés par le Saint-Esprit. C'est des rites sacrés, nous en avions parlé, qui nous donnent le sacré et dans leur forme nous permettent de garder tout le sacré. En cela, ils sont guidés par le Saint-Esprit. Le grand acteur de la liturgie, c'est le Christ. C'est le Christ dans le Saint-Esprit qui prie le Père. Et donc, les chrétiens sont unis au Christ par le Saint-Esprit. Dans la liturgie, nous exerçons à plein pot notre baptême et notre confirmation. Et pour ceux qui ont reçu le ministère ordonné, l'ordre diaconal, sacerdotal ou épiscopal, parce que c'est un sceau de l'Esprit Saint. Et nous exerçons cela unis à l'Esprit Saint dans la liturgie eucharistique, mais aussi dans toutes les autres liturgies, que ce soit la pénitence, la réconciliation, que ce soit le mariage, le baptême, le Saint-Esprit agit, et nous pouvons, à notre manière, participer à son action. Voilà. L'Esprit Saint, ça c'est l'Église célébrant dans sa tous ensemble, parce qu'il nous unit. L'Esprit Saint agit aussi dans la diversité des vocations, dans la diversité des inspirations qu'il fait, dans les diversités des dons. Il existe des chartreux, des dominicains, des bénédictins, il existe des laïcs consacrés, il existe des associations de fidèles laïcs, il existe l'Opus Dei, l'Emmanuel, les équipes Notre-Dame, CVX, des associations de prêtres. Il existe, frère de Saint-Vincent de Paul, les conférences de Saint-Vincent de Paul, des charismes comme le Secours catholique, etc. Tout cela est mu par le Saint-Esprit, qui guide, qui donne à son corps, au corps qui est l'Église, il donne des charismes particuliers, qui sont des dons de Dieu, qui peuvent être à la fois personnels, une personne a un charisme particulier. Bernadette a eu le charisme, la mission de parler de Marie. Le Padre Pio a eu le charisme, entre autres il en a eu plein, de célébrer la messe et dans la messe de montrer le mystère de la croix. Le curé d'Ars avait le charisme de voir dans les âmes pour la confession. Sainte Catherine de Sienne a eu le charisme de l'amour de l'Église dans sa vie mystique. Thérèse de Lisieux, le charisme de la petite voix. Le Père Jérôme le Jeune, laïc, le charisme de défendre la dignité de la vie en dialogue avec la science et la foi. Les charismes sont à la fois des dons qui sont donnés par personnellement. Nous pouvons, saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, aspirer aux dons spirituels. Nous pouvons les demander si ça nous est donné pour nous édifier, mais aussi pour édifier le corps de l'Église. Et le Seigneur donne aussi des charismes, j'allais dire, de dimension communautaire, des ordres, des familles spirituelles, qui sont là pour encore plus déployer l'œuvre de propagation de l'Évangile, l'œuvre de conversion. Donc c'est l'action du Saint-Esprit, tout ça. Nous la retrouvons et nous voyons que ça, c'est bien vivant dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est aussi à l'œuvre dans l'appel d'une vocation. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans la vocation mariage, dans un baptême, une conversion, dans une vocation consacrée sacerdotale. Donc, il est à l'œuvre dans la vie de l'Église. Le Saint-Esprit agit aussi dans la vie missionnaire. Voyez ? Alors, c'est vraiment, l'Église insiste là-dessus, sur ce point. C'est, le reprendra le pape François et avant lui le pape Jean-Paul II dans Redemptionis Mission. Et avant lui, de manière particulière, le pape Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, l'annonce de l'Évangile en disant « Le grand acteur de l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit ». Nous le voyons à la Pentecôte, mais c'est ainsi depuis toute l'histoire de l'Église. De manière, ça a été renouvelé comme une nouvelle Pentecôte à la suite de la prière de Jean XXIII au moment du Concile Vatican II. Une grande effusion du Saint-Esprit pour annoncer à toute la terre la gloire du Christ comme le Seigneur et Sauveur de tous les hommes. Donc le Saint-Esprit, là, il œuvre dans le dynamisme missionnaire. Quelqu'un qui veut être missionnaire doit prier le Saint-Esprit. Je nous rappelle que nous avons reçu cette grâce à la confirmation, et si nous ne sommes pas confirmés, nous avons à le demander à Dieu pour le vivre. Et le Saint-Esprit est aussi présent, je disais, dans le témoignage des saints, les charismes personnels des grands saints. Dans la sainteté, nous avons la réalisation du Saint-Esprit par excellence. L'Église est une sainte catholique. Elle est sainte en elle-même, mais elle est composée de pécheurs, oui. Mais elle a un pouvoir de sainteté. En elle réside la sainteté de Dieu. Elle peut sanctifier les gens unis au Seigneur. L'Église est sainte. Et elle fait des saints par le Saint-Esprit. L'épouse du Saint-Esprit, l'Église, et l'Esprit-Saint font un bon travail, tous les deux, pour faire des saints. Et dans la diversité des saints, nous voyons quelque chose de l'œuvre du sanctificateur. Nous voyons là un chef-d'œuvre. Le Saint-Esprit, l'artiste qui crée des saints et qui les fait d'une manière unique et délicate, il les personnalise. Jamais il fait du standard. Il fait du sur-mesure. Voilà. Dans l'œuvre des saints, nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre. Et nous allons voir des saints qui sont différents des temps anciens, qui peuvent s'en inspirer, mais qui continueront à être profondément nouveaux parce qu'il est créatif. C'est l'Esprit créateur. Enfin, le Saint-Esprit, et ce n'est pas une remarque des moindres, le Saint-Esprit est présent dans la prière. Le Saint-Esprit est le maître intérieur. Paul nous dira, et nous le verrons cet après-midi dans la prière, nous ne savons pas prier comme il faut, c'est pour ça que le Saint-Esprit vient nous en par des gémissements inexprimables. Il prie en nous. C'est le grand maître de la prière. Voilà, je vous inviterai à lire la partie du 4e du catéchisme de l'Église catholique sur la prière, où le Saint-Esprit est celui qui nous aide à prier. C'est l'autre intérieur qui nous fait crier « Jésus-Christ est Seigneur, Abba Père ». Voilà. Donc dans tout cela, l'Église enseignante, Écriture, tradition, magistère, nous avons l'assistance et l'inspiration du Saint-Esprit, l'Église qui célèbre les sacrements, la liturgie eucharistique par excellence, le Saint-Esprit est le grand acteur. Dans l'œuvre d'évangélisation apostolique, l'Esprit-Saint est le premier missionnaire qui suscite le zèle. C'est l'Esprit-Saint qui est le créateur dans les différentes formes de familles religieuses. C'est l'Esprit-Saint qui fait les saints, qui donne les charismes, qui guide la prière. Voilà, qui est aussi celui qui fait la communion entre nous. La communion n'est jamais l'uniformité. La communion est symphonique comme un chef d'orchestre qui conjugue différents musiciens avec un piano, un contrebasse, un violoncelle, une flûte traversière. Ça n'a pas la même caractéristique. Chaque instrument n'a pas la même caractéristique. Mais uni au Saint-Esprit, ça fait une belle musique. Voilà. Il faut trouver sa place pour vivre l'unité de l'Église, dans cette semaine qui s'est terminée de l'unité de l'Église, dans le Saint-Esprit, sans chercher l'uniformité. Et donc il faut accepter nous-mêmes d'être surpris par les dons spirituels, le zèle des uns des autres qui peut être différent de moi, et même sur certains aspects, leur approche de Dieu, de la même foi, peut être différente, non pas que c'est une foi différente, mais c'est que le Saint-Esprit guide sur un point particulier différent. parce que ce sont des charismes, des chemins particuliers. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Donc voilà, nous voyons l'identité du Saint-Esprit plutôt manifestée que, j'allais dire, proprement, on ne lui met pas la main dessus, puisqu'il relaye sur le Père et sur le Fils, mais il agit de manière excellente dans tous ces domaines-là. Alors nous allons maintenant essayer de parler encore un peu plus de manière étroite, plus théologique, de qui est l'Esprit-Saint. Comment le définir vraiment, une fois qu'on a vu un peu son action pour parler de lui? Eh bien, tout d'abord, on peut dire que c'est la troisième personne de la Trinité, qu'il est l'égal du Père et du Fils, qu'il est le Père et l'origine de tout. Le Père engendre le Fils, le Père envoie l'Esprit Saint et le Fils aussi envoie l'Esprit Saint. Dans la Trinité, il y en a un qui est Fils, il y en a un qui est Père et il y en a un qui est Esprit Saint. La relation entre le Père et le Fils est une relation d'engendrement. L'un engendre, l'autre est engendré. Dans la relation du Saint-Esprit avec le Fils et le Père, ce n'est pas une relation d'engendrement, l'Esprit Saint n'est pas Fils. C'est une relation, j'allais dire, une spiration, un mouvement où le Père, quand il engendre son Fils, le fait dans l'amour, dans l'Esprit Saint. Et de la même manière, le Fils, quand il redonne tout à son Père, le fait dans l'amour, dans l'Esprit Saint. Ce mouvement, cette spiration, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et le mouvement du Saint-Esprit, le Père engendre, le Fils est engendré, l'Esprit Saint, son mouvement, c'est la procession. Il procède du Père et du Fils. Un autre type de mouvement, mais c'est un mouvement qui lui est propre. Il procède du Père et du Fils. L'Esprit Saint a toute la dignité de Dieu. Il a toute la divinité de Dieu. Il est Dieu égal au Père et au Fils. Et c'est pour ça qu'on dit, et le terme grec, latin est mieux, il est consubstantiel. C'est-à-dire qu'il partage la même substance divine avec le Père et le Fils, consubstantiel au Père et au Fils. Pourquoi l'Esprit-Saint a ce nom-là? Parce que il semblerait que Dieu est Esprit. Il semblerait que Dieu est trois fois Saint. Et a priori, notre Père céleste est Saint, que Jésus-Christ, comme le dit l'Écriture, en particulier dans Marc, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Il est Saint lui aussi. Alors l'Esprit-Saint, il n'a pas de chance, on pourrait dire. Il a hérité d'un nom qui n'est pas vraiment à lui, Esprit, et Saint qui n'est pas vraiment à lui. Donc il n'a pas grand-chose, il est vraiment, vraiment inconnu. En fait, non, effectivement, nous dit, c'est le nom propre, nous dit l'Écriture, l'Église, Saint-Esprit, tel est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. L'Église l'a reçu du Seigneur. Nous croyons que Jésus-Christ nous a enseigné que la troisième personne de la Trinité s'appelle Esprit-Saint. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Et oui, Jésus dira dans la finale de Matthieu 28, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pardonnez-moi cette boutade, mais il n'a pas dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'autre qu'on ne sait pas son nom. » Il l'a appelé Esprit-Saint, parce qu'effectivement, il a voulu donner son nom propre. Donc, son nom propre, c'est, j'allais dire, deux éléments qui semblent généraux aux trois personnes divines, Saint et Esprit, mais mis proprement. Contracté, ça fait véritablement un nom propre, ça dit la troisième personne. On voit quelque chose du mystère, c'est, il semblerait en apparence que ça définit moins que Père et Fils. Pourtant, c'est sa définition, c'est le nom propre. Et le nom propre d'une personne de la Trinité, c'est pas comme nous, où on peut rajouter un nom. Par exemple, l'un d'entre nous s'appelle William. Avant de s'appeler William, il est homme. Voilà, etc. On lui a donné le nom de William. Pour la société, il s'appelle William. Et aussi, il y a un prénom et un nom de famille. De la même manière pour vous, etc. Pour l'Esprit-Saint, le nom propre, c'est son identité. Il n'y a pas un truc avant Esprit-Saint. C'est Esprit-Saint, mais plus que ça, c'est sa fonction. Chacun d'entre vous, votre prénom ne dit pas votre fonction. Vous pouvez vous appeler Charlie, et être facteur. Vous pouvez vous appeler Charlie, être coiffeur. Charlie ne définit pas un type de fonction dans la société. Esprit Saint, c'est son identité, son nom, sa fonction. Et c'est pareil pour les deux autres personnes de la Trinité. Père, c'est son identité, son nom, sa fonction. Vous voyez, c'est uni. Dans la vie, quelqu'un est papa, il a aussi un prénom. Et avant d'être papa, il a été enfant. Il n'a pas toujours été papa. Dans Dieu, père est toujours père. Fils est toujours fils. Vous voyez, le nom est très fort. Le terme « esprit » traduit le terme hébreu « roua » qui, dans son sens premier, nous dit l'Église, signifie « souffle »,« air », »,« vent ». Voilà. Donc, on sent que la personnalité de l'Esprit-Saint, c'est « souffle »,« air », »,« vent ». C'est du mouvement. Il procède. Spiration. Son rôle. Voilà. Donc, il est discret. Le Christ le dira en Jean 3, en parlant à Nicodème, « Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Voilà. Le vent souffle où il veut, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère qui passe, mais qui est là, et qui nous conduit vers le Père, vers le Fils, qui nous révèle ce moment, mais il passe. C'est l'Esprit Saint. Jésus utilise en effet l'image sensible du vent, je disais, pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin. Et voilà. Alors, nous allons du coup, approfondir la personnalité de cette personne divine, qui est l'Esprit Saint, à travers des images. Les images, et puis aussi un nom propre, sont là pour nous aider à discerner de mieux en mieux qui est l'Esprit Saint. Et chaque image n'enferme pas tout le mystère de l'Esprit Saint. C'est un certain nombre d'images qui nous permet, par des correctifs, d'avoir un élément à peu près organisé sur le mystère du Saint-Esprit. Voilà. Tout d'abord, il faut commencer en disant que Jésus a promis la venue d'un paraclet. Littéralement, ça veut dire celui qui est appelé auprès, l'avocat, l'advocatus. Le Seigneur en parle dans Jean 14. Vous verrez, en Jean 14, verset 16, verset 26, ainsi qu'en Jean 15, verset 26, et en Jean 16, verset 7, le Seigneur parle d'un avocat, d'un paraclet. On traduit habituellement le paraclet aussi par le consolateur. Ce qui est important de se rappeler dans l'Écriture, c'est que Jésus est le premier consolateur, est le premier avocat. Voilà, on en parle dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Et pourtant, le Seigneur va aussi donner ce nom-là à l'Esprit-Saint, pour dire qu'il y a un autre paraclet, un autre consolateur, un autre avocat. Dans l'Écriture, nous trouvons aussi des noms au Saint-Esprit, en plus de l'appeler le Saint-Esprit, il est appelé aussi l'Esprit de la promesse. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a deux grandes promesses dans l'Ancien Testament. La promesse messianique et la promesse de l'Esprit Saint. Si vous regardez Isaïe 7, vous avez la promesse messianique. Voici que la femme, la Vierge, enfantera un fils et on l'appellera l'Emmanuel, qui se confirme dans Matthieu, par exemple. Dans le récit de l'enfance de Matthieu, l'ange parle à Joseph et dit « Il s'appellera l'Emmanuel ». Voilà. Donc, il y a quelque chose là de l'accomplissement de cette promesse. De la même manière, si vous regardez le prophète Joël, on parle d'un esprit qui transformera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Une connaissance, la loi sera imprimée dans les cœurs. Et bien dans les actes des apôtres, actes 2, 38, 39, Pierre parlera de l'Esprit-Saint, objet de la promesse du Père. Donc on a aussi là un accomplissement, et c'est pendant la Pentecôte, de la promesse qui a été faite au prophète, et à travers le prophète, à tout Israël, et même pour l'universalité des hommes, qui est le don du Saint-Esprit. Et donc Paul l'appelle par conséquent l'Esprit de la promesse en Galates 3, en Éphésiens 1. On l'appelle aussi l'Esprit d'adoption. C'est lui qui nous fait être fils, fils dans le Fils. L'Esprit d'adoption, c'est lui qui nous fait dire de manière intime « Abba Père ». On parle aussi de lui comme l'Esprit du Christ. Ben oui, le Seigneur est rempli du Saint-Esprit. Il est le Fils éternel, incarné, qui parle au Père éternel dans l'Esprit, l'Esprit du Christ, Romains 8. On parle de l'Esprit du Seigneur, dans 2 Corinthiens 3. On parle de l'Esprit de Dieu, Romains 8. L'Esprit de gloire, c'est l'Esprit Saint qui, on va le voir, fait, donne la nuée, le rayonnement, y compris pour les saints. On voit ça dans la première épître de saint Pierre. Donc on a beaucoup de termes pour parler du Saint-Esprit. Voilà. Les symboles. D'abord l'eau. Le symbolisme de l'eau est significatif de l'action de l'Esprit Saint dans le baptême, nous dit l'Église. De même, nous dit l'Église, que la gestation de notre première naissance est opérée dans l'eau, de même, l'eau baptismale signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée dans l'Esprit Saint. Voilà. Dans 1 Corinthiens, nous disons que nous sommes abreuvés d'un même esprit, abreuvés d'un même esprit. L'Esprit Saint est l'eau qui va jaillir du côté du Christ. Jean 19. De la même manière, le Christ dira que celui qui boira à la Samaritaine de l'eau qu'il a proposée n'aura plus jamais soif. Jean 4. Et de la même manière, plus tard, le Christ dira « Qui vient à moi, celui qui a soif, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Nous voyons cela dans le Christ ressuscité, miséricordieux, révélé à saint Faustine. Ça jaillit. Mais de la même manière, un chrétien est quelqu'un qui sait qu'il y a une source à l'intérieur et l'Esprit Saint jaillit. Il a une source. Voilà. Il a une source. Une source qui nous fait venir, qui nous fait dire Abba Père, qui nous invite à aller vers le Père. Si vous preniez la belle image de la grotte de Bernadette, vous pouvez imaginer cette grotte comme votre cœur, comme notre cœur. Que fait la Vierge Marie qui est l'épouse du Saint-Esprit? Elle invite chaque personne à rentrer dans la grotte et à boire de l'eau et à s'y laver. Conversion, s'y laver. Mais la grotte, c'est notre cœur. Que fait la Vierge Marie? Elle nous aide à purifier l'eau de notre grotte pour avoir accès à la source au fond du cœur. Où est la source au fond du cœur? C'est l'action du baptême. C'est le Saint-Esprit en nous, l'eau que le Christ donne et qui jaillit de son côté et qui peut jaillir de nous-mêmes, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est le Christ et nous. Parce qu'un chrétien, il est branché sur la source, sur l'eau, sur le Saint-Esprit. Symbole de l'eau. Le symbole de l'onction. On dit que le Christ est le Messie, le Christ, Christos en grec, le Messia en hébreu, loin, O-I-N-T, loin. Un chrétien est un petit Christ, un loin, quelqu'un qui a reçu l'onction au baptême, on met une onction d'huile, on met une onction d'huile en disant des paroles au moment de la confirmation. Les prêtres sont loin dans les mains, c'est des onctions. Le roi David, le roi Saul étaient des loins. Ils avaient reçu une corde, on avait versé de la corde, l'huile sainte, une onction. Donc l'onction, c'est un signe du Saint-Esprit. L'Église nous dit le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint, jusqu'à en devenir le synonyme. Quand on parle de l'onction, donc on parlera de l'action du Saint-Esprit. Dans l'initiation chrétienne, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelée justement dans les églises d'Orient chrismation, chrismation. Et de fait, dans notre église latine, pendant la semaine sainte, on a la messe chrismale, où nous consacrons les huiles qui vont servir à la chrismation. Vous voyez, l'action du Saint-Esprit dans l'onction. Voilà, et loin par excellence, je disais, c'est le Christ. Voilà, c'est le Christ. Le feu. Le feu, nous le voyons à la Pentecôte. Le feu. Ce feu, nous le voyons à la Pentecôte. Le Christ dira aussi qu'il est venu jeter un feu sur la terre, et comme il voudrait déjà qu'il soit allumé, Luc 12, 49. Jean-Baptiste, qui était dans l'Esprit Saint, on dit qu'il marchait devant le Seigneur avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Et on se rappelle qu'Élie priait pour attirer le feu du ciel sur le sacrifice du Mont Carmel, dans la première lettre aux Romains. Et que le prophète Élie, nous dit le Siracide, se leva comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche. Voilà, un homme rempli de feu, un homme rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, qui a le même esprit, le nouvel Élie, qui agit avec l'esprit et la puissance d'Élie, le Christ qui veut jeter un feu sur la terre. Et Jean-Baptiste qui dira, il baptisera dans l'esprit et le feu, en parlant du Christ. C'était, voilà. Ce don de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est considéré comme un feu. C'est la même langue que je disais qui se retrouve, ces flammes à la Pentecôte. Quelle est l'action du feu? Le feu illumine, il éclaire dans la nuit. L'Esprit Saint nous permet de mieux voir la parole de Dieu, de voir la présence de Dieu. L'Esprit Saint donc conduit, parce qu'il éclaire le chemin. L'Esprit Saint réchauffe, il console. Quand c'est froid, on le dit dans les prières au Saint-Esprit, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est raide, console ce qui est blessé. Voilà. L'Esprit Saint fait cette œuvre de réchauffe, voilà, des cœurs. L'Esprit Saint purifie. Quelqu'un qui rentre dans le feu de Dieu va passer par une purification. Ça brûle tout ce qui est imperfection. Et donc, les actions de Dieu sur nous peuvent être consolantes, peuvent être éclairantes, illuminantes, communiantes, je ne sais pas si on dit rentrer en communion, mais aussi purifiantes. Il ne faut pas avoir peur de la purification, c'est une œuvre du Saint-Esprit. La croix est purification. En cela, elle est œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Elle enlève tout ce qui n'est pas de Dieu pour mettre à la place Dieu. Voilà. Vous pourrez voir ça si vous êtes intéressé dans la mystique, en particulier Saint Jean de la Croix, qui parle de la vive flamme d'amour dans les cantiques spirituels. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. L'Esprit Saint, c'est aussi, pour terminer dans cette idée de feu, dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens, Paul dira « N'éteignez pas l'Esprit ». Là, on parle du feu, il ne faut pas l'éteindre, il faut le laisser embraser. Voilà, n'éteignez pas l'Esprit. Certainement, un des signes les plus forts du Saint-Esprit, voilà, c'est d'ailleurs à la Pentecôte, on utilise la couleur rouge, la couleur du feu, qui est aussi la couleur du sang des martyrs. Donc on voit là, on a un symbolisme très fort. La nuée et la lumière. La nuée et la lumière, on voit ça dans ce qu'on appelle les manifestations de Dieu, les théophanies dans l'Ancien Testament, la nuée tantôt obscure ou tantôt lumineuse révèle le Dieu vivant et sauveur. Et oui, Moïse, au Sinaï, dans Exode 24, ou à la tente de la rencontre, en Exode 33, et même durant la marche dans le désert d'Israël, Dieu accompagne son peuple avec la nuée. La nuée. Et la nuée, c'est la présence du Saint-Esprit. On voit aussi cela dans l'Épître aux Romains, la première lettre des rois, le premier livre des rois, lors de la dédicace du temple par Salomon. La nuée rentra dans le temple, présence de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà, les Hébreux appellent cela la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Voilà. Mais la nuée, il y a aussi la présence de Dieu. Celui qui va venir concevoir dans le sein de Marie l'enfant saint, le fils de Dieu, le fils éternel devenu chair, fait homme, il va prendre Marie sous son ombre, sous sa nuée, l'Esprit Saint à nouveau. À la transfiguration, que voyons-nous? Nous voyons que survint dans la nuée, et dans la nuée se fit entendre une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dans la nuée, dans la présence du Saint-Esprit, le Christ est transfiguré, on entend la voix du Père, la présence de Dieu. Voilà. Et quelque part, un chrétien, quand il prie, quand il veut faire oraison, il monte sur la montagne pour rejoindre le Christ transfiguré et il veut être dans la nuée, dans la présence de Dieu. Il veut que l'Esprit Saint soit le couvre de son ombre. Voilà. Ça peut être un très beau signe de penser, ça c'est une image, c'est pas le symbolisme parfaitement, mais oui, chez les moines, on remet sa capuche à un moment donné pour être seul. On se met sous son ombre pour être dans la nuée. Voilà. Le sceau, pas le sceau d'eau, ni quelqu'un qui est idiot, mais le sceau, S-C-E-A-U, c'est aussi un symbolisme du Saint-Esprit. C'est, on le dit dans Saint Jean, chapitre 6, Dieu nous a marqués de son sceau. On le dit encore dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est une marque indélébile de l'onction, le sceau. Et en cela, la théologie de l'Église en a extrait le terme de caractère. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas débaptiser quelqu'un qui est baptisé. Ça laisse une marque indélébile sur son âme. De la même manière que la confirmation, de la même manière que le sacrement de l'ordre, avec les trois degrés. Ce sont les trois sacrements, baptême, confirmation et ordre, sacrement à caractère. De fait, on peut se remarier, ce n'est pas sacrement à caractère. Mais les sacrements, de ces trois sacrements-là, baptême, confirmation, ordre, sont des sacrements à caractère, marqués du sceau de l'Esprit-Saint. Voilà, marqués du sceau de l'Esprit-Saint. Donc c'est quelque chose que sans cesse on peut réactiver, parce que c'est présent en nous. Il y a la source. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la source pour les mariés, mais la source est entre eux et vient aussi du baptême et de la confirmation. Vous voyez ? C'est le sacre. Donc on a tout quand on est baptisé et confirmé. Parce que pour l'ordre, il faut un sacrement supplémentaire. C'est une nouvelle nature. On dit une différence non pas seulement de degré, mais de nature, dira Vatican II. Et donc là, il y a un nouveau sceau. On parle aussi de la main de Dieu pour parler du Saint-Esprit, la main. C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades. C'est par l'imposition des mains que les apôtres, que l'Esprit-Saint est donné. Et de fait, on voit dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, Paul qui dira « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Et il y a des gens qui diront « Mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et il leur a imposé les mains. La communication du Saint-Esprit. Voilà. C'est une effusion du Saint-Esprit et nous avons gardé ces gestes-là pour manifester la présence du Saint-Esprit qui vient. Vous le voyez de manière éminente dans l'ordination. L'évêque impose les mains. Et à la messe, ce qu'on appelle l'épiclèse, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Le prêtre fait l'imposition des mains sur les espèces, du pain et du vin, pour qu'elles soient sanctifiées et deviennent le corps et le sang de Christ. L'épiclèse. On parle aussi, et puis de la même manière, le prêtre met ses mains à la confession. Il impose au-dessus les mains sur le pénitent. Par l'Esprit Saint, la formule c'est par l'Esprit Saint, il a permis la rémission des péchés. Il a envoyé l'Esprit pour la rémission des péchés, vous voyez, tac, les mains. Et ce moment-là, une sorte de petite épiclèse aussi. Le doigt, on parle du doigt aussi. C'est le doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu que Jésus expulse les démons, nous dit l'évangile de Saint Luc au chapitre 11. La loi de Dieu a été écrite sur les tables de pierre, par le doigt de Dieu, nous dit encore le livre de l'Exode au chapitre 31. Vous voyez, le doigt, c'est quelque chose qui dirige, qui inscrit, qui gouverne, qui a une puissance. Par le doigt de Dieu qu'on expulse les démons, cette autorité, Jésus parlait avec autorité. En même temps, on grave dans l'autorité, et une autorité des commandements de Dieu. Ils ont été gravés par le doigt de Dieu. Et de la même manière, on croit que le Saint-Esprit, nous l'invoquons dans le Veni Creator, comme le doigt de la main du Père, le Digitus Paterne Dextere, dans le Veni Creator, voilà, dans la liturgie. Le doigt de la main du Père, voyez. On continue à l'invoquer ainsi, il guide. Et enfin, un symbolisme qui est bien connu, c'est la colombe. La colombe, on la retrouve en plusieurs endroits. Peut-être, tout d'abord, elle n'est pas suggérée comme ça, colombe, mais on peut la peut la deviner, l'Esprit Saint à la Genèse planait sur les eaux. Le souffle de l'Esprit planait sur les eaux, planait. Il y a quelque chose du mystère là, hein, qui plane. Deuxième chose, on le voit par exemple avec le déluge, avec Noé, qui symboliquement, nous dit le catéchisme de l'Église, concerne le baptême. Il y a quelque chose qui va mourir sous l'eau, qui va renaître après, symbolique du baptême. Et qu'est-ce qui se passe après quand ça renaît? Il y a une colombe lâchée qui revient avec un rameau à Noé. Il y a une colombe. Voilà. Le mystère de l'enfouissement dans l'eau, ça ressort, il y a une colombe. De la même manière, quand le Christ remonte de l'eau, pareil que Noé, remonte de l'eau, il y a une colombe qui va descendre. L'Esprit Saint va descendre sous forme de colombe, dit Jean-Baptiste. Et on a gardé cette symbolique de l'Esprit Saint dans l'Église. Dans certaines églises, la Sainte Réserve Eucharistique est conservée en hauteur dans un réceptacle qu'on appelle un colombarium, qui est suspendu par une chaînette en haut de l'Église, et ça a une forme de colombe. Voilà, on a gardé cette idée de l'Esprit Saint. Alors là, l'Esprit Saint, la forme de la colombe, elle contient le corps du Christ, et on a gardé cette image de la colombe. Voilà pour les signes. Et donc vous voyez, tous ces signes, ces symbolismes, nous disent quelque chose de son action à cette personne divine qui est Saint-Esprit. Et à travers tous ces signes, nous avons son influence sur l'Église, sur le monde et sur nous-mêmes, et ainsi on peut comprendre qu'il est qui il est. Voilà. J'ajoute encore, je ne l'ai pas dit, il est créateur, l'Esprit créateur. Donc il a créé l'univers, il inspire l'Église, il est créatif. On peut dire qu'il inspire aussi même toute forme de création. Voilà. L'Esprit Saint dans l'Écriture, on en a déjà parlé. Mais peut-être qu'il est beau. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la promesse. Voilà. L'Esprit Saint, la promesse faite du Père qui s'accomplit dans les actes des apôtres, où on voit c'est le don de l'Esprit Saint qui était promis, en particulier par le prophète Joël. Mais on voit par exemple que dans Jésus, la personne de Jésus, va se réaliser la double promesse du Messie et du Saint-Esprit. Et oui, en effet, quand le prophète Isaïe, au chapitre 11, dit « Un rejeton sort de la souche de Jessé, un surgeon pousse de ses racines, sur lui repose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. » Puis un redoublement de l'esprit de crainte, qui veut dire l'esprit de piété dans le texte. Et là, vous avez les dons du Saint-Esprit que nous parlerons cet après-midi, ces différentes actions qui aident une personne à être sanctifiée. Et bien là, dans cette promesse du prophète Isaïe, en Isaïe 11, vous avez la promesse d'un Messie qui viendra. Après Isaïe 7, que la Vierge va enfanter un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Promesse de ce surgeon. Voilà. Et en même temps, il a l'Esprit du Seigneur sur lui. Donc c'est un Messie qui est loin. Il y a tout l'Esprit du Seigneur. Donc on voit dans le Messie, il y a la promesse du Messie et celui qui va donner l'Esprit du Seigneur. Donc on retrouve qu'en Jésus, les deux promesses de l'Ancien Testament, Messie, Esprit de la promesse, sont données. Jésus, il récapitule tout. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dira en Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, parce qu'il m'a oint. Voilà, l'Esprit du Seigneur. Vous retrouvez cette même action du Saint-Esprit qui précède Jésus dans Jean-Baptiste. Voilà, dans Jean-Baptiste de manière particulière. Vous avez l'action du Saint-Esprit dans la Vierge Marie. J'en ai parlé, elle est couverte de son ombre. Marie est la toute sainte. Elle est la comblée de grâce. En grec, ça veut dire « kekarito mene ». Le pape Jean-Paul II, dans son commentaire dessus le 8 mai 1996, disait « C'est un don de Dieu fait à la Vierge, rendu pleine de grâce. » Voilà, une grâce parfaite et durable qui implique une idée de plénitude. Une grâce parfaite et durable qui implique une idée de plénitude, disait. Là, si vous avez ça en termes bibliques, en termes dogmatiques, ça s'appelle « Immaculée Conception ». Voilà. Et l'Immaculée Conception, c'est un fruit du Saint, c'est une action du Saint-Esprit depuis la création, la conception de la Vierge Marie. Voilà. La Vierge Marie est immaculée par l'Esprit Saint. Voilà. Elle est pour ça l'épouse du Saint-Esprit. Et Montfort dira plus tard, quand une âme voit Marie, quand l'Esprit Saint voit dans une âme Marie, il va vers elle. Parce que Marie, elle est profondément unie à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a tout sanctifié en elle. Elle est pleine de grâce. Elle est kekaritomene. Vous voyez ? Donc on voit que l'Esprit Saint, il a travaillé. C'est encore l'Esprit Saint qui a guidé la Vierge Marie. C'est encore l'Esprit Saint qui va petit à petit lui faire approfondir le mystère de comment Jésus va sauver les hommes. Elle fait son pèlerinage dans la foi, nous dit l'Église. Et c'est encore l'Esprit Saint, dans la parole du Christ, qui va lui permettre de devenir la mère. Femme, voici ton fils, elle devient la mère, elle devient la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, la mère des hommes, la mère de l'Église, et la mère de tous les baptisés. Donc en cela, cette maternité divine, c'est aussi une action du Saint-Esprit. Et elle exerce sa maternité divine dans la Pentecôte. La Pentecôte, elle est en présence de ceux qui attendent l'Esprit Saint. Elle prie avec eux, elle est au milieu d'eux. Voyez ? Donc là, on voit l'action du Saint-Esprit dans la personne de Marie. Alors il est évident que dans la vie de Jésus, l'action du Saint-Esprit, il est partout. Il est partout. On le voit, il est celui qui est plein de grâce et de vérité. Esprit de vérité, voilà. L'Esprit qui rend beau, qui rend gracieux. On a ça dès le prologue. Jean-Baptiste le voit descendre, l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, il est depuis l'enfance du Christ, depuis sa conception. Depuis même toujours, parce qu'il est fils éternel. Tous ses faits, ses gestes sont l'expression du Saint-Esprit en lui aussi. Voilà, la manière dont il regarde, la manière dont il parle, dont il touche, dont il expulse, dont il guérit, c'est l'Esprit Saint. Et à un moment de sa mort, le Christ remit l'Esprit. Et à la résurrection, il souffla l'Esprit, Jean 20. Voyez, vous avez l'action du Christ. Et l'Esprit qui leur a été promis, il en parle en Jean 14, 15, 16, de manière particulière, c'est des discours sur le Saint-Esprit en particulier. Ça va se réaliser à la Pentecôte, où il leur a promis une force qui viendra d'en haut. Voilà. Et vous avez après tout l'évangile du Saint-Esprit, on pourrait dire, qui est les Actes des Apôtres. C'est le livre du Saint-Esprit. Vous avez sans arrêt l'Esprit Saint fait telle chose, l'Esprit Saint fait telle chose, l'Esprit Saint fait telle chose. Voilà. Alors, je voudrais m'arrêter encore sur quelques petites choses qui me semblent importantes. L'Esprit Saint, c'est la personne amour par excellence dans la Trinité. C'est la personne amour. L'Esprit Saint, c'est la personne don. Le don de Dieu par excellence, c'est l'Esprit Saint. Dieu a promis l'Esprit Saint à tous ceux qui lui demandent. Si vous êtes vraiment sûr que quelque chose qui ne vous manquera jamais, c'est l'Esprit Saint. Dieu le donne, il l'a dit. Et pourtant, le Seigneur dit, un seul péché ne sera pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de ne pas vouloir recevoir le don de Dieu. Voyez ? Le fait de ne pas recevoir sa miséricorde, c'est une expression du Saint-Esprit. Son pardon, sa présence. Là, le Saint-Esprit ne peut pas venir si on ne veut pas lui donner la porte ouverte. Mais normalement, tout est possible avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est le grand artisan qui peut tout faire, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, je rajoute une petite partie qui me semble importante. Parce que, avant de parler cet après-midi de la vie spirituelle, parce que on m'a posé la question, oui mais mon père, c'est compliqué de penser que l'Esprit Saint c'est une personne. On peut le penser un peu encore comme énergie, etc. C'est difficile de le penser comme une personne. Alors je vais rajouter des éléments qui vont vous aider, voilà, pour vraiment avoir des arguments pour parler de l'Esprit Saint comme une personne, au sens fort du terme, d'accord ? La première chose, c'est que vous voyez dans Matthieu, la finale de Matthieu 28, que Dieu dit, le Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. C'est au nom, c'est dans le nom. Le nom, c'est le nom divin, le nom qui était imprononçable par les Juifs, parce que le nom de Dieu, on ne le prononçait qu'une seule fois. On ne met pas la main sur Dieu, vous savez, parce qu'on ne prononce pas le nom. Je peux prononcer le nom de stylo, je mets la main sur le stylo, mais le nom de Dieu, je ne le prononce pas parce que la créature ne met pas la main sur le Créateur. Et pourtant, ce nom de Dieu, l'intimité du nom de Dieu, sans prendre le nom, sans prendre la divinité, mettre la main sur la divinité, mais connaître l'intimité de Dieu, l'intérieur du nom, j'allais dire, nous est dévoilé à la fin de l'Évangile entièrement. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. À l'intérieur de la divinité, il y a quoi? Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Donc il y a la personne, égalité des personnes là qui est dit Père, Fils et Saint-Esprit. Égalité des personnes divines. Donc on voit là que est dit une personne divine. Mais on va, j'allais dire, accentuer cela pour nous donner des bases. La première chose, c'est qu'une personne divine, elle a un caractère. Elle peut vouloir des choses, on peut la réjouir, on peut la contrarier, etc. C'est la même chose, nous dit l'Écriture, pour l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut des choses. En 1 Corinthiens 12, un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Comme il veut. Donc il veut des choses, l'Esprit Saint. Acte 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous charger d'autre chose. Il a paru bon au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il lui a semblé bon de faire ainsi. Donc il veut des choses. L'Écriture nous le dit. Il aime. Je ne crois pas qu'une énergie aime. La volonté et l'amour, ce sont des attributs d'une personne, ça. Mais l'Esprit Saint, il aime. En Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre, etc., etc. » Et par l'amour de l'Esprit. Voilà, l'Esprit Saint, il aime. On continue. C'est plus fort, ça, à mon sens. « Il peut être attristé. » Isaïe 63, 10. « Ils ont attristé son esprit. » Et il est devenu leur ennemi. Ils ont attristé son esprit. La même chose dans Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit. On peut attrister quelqu'un? Le Saint-Esprit, oui. Il parle. Alors, l'Écriture nous dit qu'il parle très rarement. Le magistère nous a rappelé dans le catéchisme que normalement, il révèle. Mais là, il a suscité quelque chose. En Actes 13, 2, pendant qu'il servait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part, etc. » C'est le Saint-Esprit qui dit ça en Actes 13, 2. Voilà, il peut susciter des choses, il peut dire des choses. Il dirige. Il dirige. Actes 16, 6. Actes 8, 29, par exemple. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche de ce char. » Et on sait que Philippe va expliquer l'Écriture. Donc on voit que l'Esprit Saint, il dirige. Ça, c'est des vrais arguments. Il a une personnalité. Et si vous voyez en grec, c'est même plus fort, parce que normalement, vous avez dans le grec biblique des mots masculins, des mots féminins et des mots neutres. Vous avez trois catégories de mots. D'accord? Et le mot normalement, esprit, pneuma, en grec, c'est neutre. D'accord. Pourtant, les évangélistes ont voulu mettre, et particulièrement Saint Jean, l'article qui va avec, l'article qui conjugue esprit, pneuma, qui est neutre, ils ont voulu mettre un masculin. Ils auraient dû mettre, normalement, quand on parle de l'esprit, celui-ci, on aurait dû dire ekaino, c'est-à-dire un neutre. Ils ont mis ekainos, c'est-à-dire au masculin. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient, c'est pas une erreur grammaticale, c'est qu'ils ont voulu personnaliser l'esprit, lui donner une valeur personnelle, pas un neutre, une sorte d'énergie, une personne. Donc là, même dans les termes grecs, très précis, et aussi dans la personnalité, on voit que l'Esprit Saint est une personne bien cachée. On voit plus ses effets dans les symboles. Mais c'est vraiment une personne. Voilà. Nous avons fini notre enseignement de ce jour.